Bénédicte Durand, bonjour.
Bonjour Didier Testo.
Vous êtes le directeur général d'Alteora. Vous rencontrez des investisseurs à l'Investor Access. Qu'est-ce que vous leur dites sur les derniers mois de la société? Comment se sont passés les derniers mois pour vous?
Les derniers mois, il s'est passé énormément de choses parce qu'on a restructuré l'ensemble du groupe. On l'a rebaptisé. On s'appelait Messelec Composite. On s'appelle désormais Alteora. Un apport partiel d'actifs, des nouveaux business et puis notre présence aujourd'hui pour vraiment venir ancrer en fait et expliquer en fait notre plan stratégique et tout ce qu'on a fait sur ces derniers mois et puis tout ce qu'on ambitionne de faire aussi pour ces prochaines années.
Alors on le dit souvent à toutes les entreprises qu'on rencontre, ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu la Covid, il y a eu une année un peu charnière, mais c'était aussi l'occasion pour vous d'accélérer dans cette période parce que c'est important ce que vous êtes en train de faire.
Oui, complètement. Alors, c'est vrai que dans notre plan stratégique, en fait, l'année 2020 était une année de fin de cycle, puisqu'on avait un précédent plan qui s'appelait Accélérer la transformation. Donc, ce plan-là est arrivé à son terme en 2020. Et aujourd'hui, donc, on ouvre une nouvelle page qui est vraiment dans la continuité. Et notre nouveau plan stratégique est inspiré et mené la reconquête industrielle. Donc, pour nous, on ne parle pas de Covid, puisque le Covid... Certes, c'est un phénomène, mais moi, je considère qu'en fait, les crises pour les entreprises doivent être appréhendées et anticipées un maximum dans nos modes de gouvernance, dans nos plans stratégiques, dans nos prévisions et dans nos business models, chose qu'on essaye de faire à notre échelle chez Alteora.
On parle avec vous de matériaux composites. Quand on regarde aujourd'hui le savoir-faire de l'entreprise, pour des investisseurs qui ne vous connaissent pas, quelles sont vos spécialités justement?
Alors, c'est assez simple. On peut nous comparer à un équipementier pour globalement tous les secteurs, sauf l'automobile grande série. Et puis, souvent, le plus simple, c'est de donner des exemples, je trouve, pour savoir ce qu'on fait et qui on est. Donc, on est aujourd'hui à Paris. À Paris, il y a un exemple que j'aime beaucoup. On a fait l'ensemble des toits des colonnes Maurice pour la ville de Paris avec notre client JC Deco. Donc, ça, c'est un produit assez emblématique de la ville et puis assez emblématique pour nous aussi parce que c'est la première fois qu'on industrialisait des composites biosourcés. Donc, on est vraiment sur des nouveaux polymères et ça, c'est vraiment à cœur et c'est encore vraiment partie prenante de notre plan stratégique.
On peut vous retrouver aussi, sans le savoir, sur les véhicules de loisirs.
Alors, par exemple, je vois tout à fait à quoi vous faites allusion. En effet, on a signé un nouveau marché sur les véhicules de loisirs. C'est vrai que ces véhicules, en l'occurrence les camping-cars, on le voit en poupe avec la crise, ce qui permet aussi d'avoir des tailles de série industrielles en fait sur ces produits-là. Et c'est là où vraiment notre offre a tout son sens en fait et apporte à nos clients véritablement de la création de valeur, puisque notre compétence au-delà des composites, c'est vraiment l'industrialisation. Et donc il faut des tailles de série et donc des produits avec un certain volume. Et ces véhicules de loisirs en font pleinement partie.
Vous parliez de biosourcés, effectivement, sur cet univers, il y a peut-être plus d'attentes aujourd'hui des clients. C'est le cas aussi des consommateurs d'avoir, mais d'abord les clients, d'avoir ce type de sourcing.
Alors, on sent qu'il y a un petit quelque chose qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, il faut quand même être clair que c'est balbutiant. Aujourd'hui, et je trouve que c'est dommage d'ailleurs que ces critères-là, RSE, ces critères autour de l'engagement, l'analyse du cycle de vie, etc., ne sont pas assez prégnants dans des décisions et dans des choix chez nos clients. Mais on sent quand même qu'on a cette tendance de fond, cette recherche de sens et d'alignement, en fait, que voilà, chaque citoyen est en train d'avancer, chacun à son rythme. Donc on espère évidemment, parce que l'un de nos paris, nous, c'est aussi la relocalisation industrielle, l'importance de la souveraineté industrielle. On en parlait avant la crise, donc on est maintenant content que tout le monde en parle. Mais voilà, les enjeux, ils sont vraiment là et on souhaite vraiment être un acteur et faire partie de cette dynamique-là.
Quand on parle de ces sujets-là, de souveraineté effectivement industrielle, on sait aussi qu'il faut être sur un segment de marché où les autres ne sont pas, avoir de l'avance, être innovant. Il faut avoir quand même un certain nombre de critères pour être capable effectivement d'être compétitif dans l'univers mondialisé.
Complètement. Et alors nous, on positionne l'innovation à plusieurs endroits et c'est ce qui me plaît. Évidemment, l'innovation technologique, mais là, vous me direz que... Voilà, on est un petit acteur, mais on est présent. On a lancé cette année un appel à projet. Alors, à nos tailles d'entreprise, c'est assez innovant et on a des beaux dossiers qui sont en ce moment, qui sont en train de passer les critères de sélection du jury. Donc ça, c'est un axe qui est très sympa. Et puis, il y a un autre sujet, moi, que j'aime beaucoup, dont on parle moins, et c'est vrai que même moi, j'en parle souvent moins, c'est toute l'innovation managériale qui est également dans nos structures et dans nos structures industrielles. Dans l'industrie, on a, donc en l'occurrence chez nous, chez Alteora, sur un peu plus de 220 collaborateurs, on a 80 métiers différents. Et ça, c'est aussi une vraie richesse de l'industrie. Et aussi là-dedans, on peut complètement innover, casser des codes, réinventer en fait des modèles. Et je souhaite vraiment aussi qu'on s'inscrive là-dedans.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu, mais voilà, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est fondamental vu les transformations qui ne sont pas que digitales, effectivement,
et exactement.
Qu'on vit au jour le jour. Alors, vous parliez de ce plan stratégique, justement, les investisseurs vous interrogent bien sûr là-dessus. Quel est, je dirais, peut-être le critère principal ou le point principal sur ce plan que vous avez voulu mettre en avant ?
Ah ben, le plan, c'est vraiment en fait, de créer un acteur implanté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui devienne rapidement une ETI, parce qu'on voit qu'on a aussi des problématiques en France de taille critique. On est en souffrance d'ETI en fait en France. Et ben, nous, clairement, on veut prendre ce bâton de pèlerin et rapidement devenir une ETI et puis créer en fait, un écosystème industriel autour de nous. Alors, je me permets, j'ose mon petit mot parce qu'on essaye quand même de le distiller ici et là, de créer un écosystème industriel symbiotique. Donc symbiotique, en fait, c'est tout simplement d'être, que ce soit sur l'amont et l'aval, le plus responsable possible, donc de travailler au maximum avec des acteurs de proximité et puis de créer au travers ça une économie la plus circulaire.
Voilà, ça c'est effectivement du point de vue de l'industriel, on ne l'entend pas encore beaucoup, mais voilà, essayer d'expliquer comment on peut avancer et on peut être compétitif puisque voilà, on a aujourd'hui une compétition intra-européenne, mais on a une compétition aussi asiatique, il va falloir se distinguer aussi sur les futurs produits.
Complètement, mais enfin on a une chance en France que tout le monde nous envie, c'est quand même le niveau de compétence et le niveau d'excellence de nos ingénieurs. Aujourd'hui, nous, notre force, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'industrialisation, l'innovation, la compétitivité. On automatise, on robotise nos process au maximum. Et quand on ne les robotise pas, c'est qu'on est en capacité d'apporter de la valeur ajoutée. Et ça, je crois que c'est, voilà, pour le coup, en France, si on est un peu chauvin, un véritable avantage concurrentiel.
Alors, dans les plans stratégiques, il y a toujours des perspectives d'activité, de résultats. En général, les investisseurs qu'on rencontre, ils regardent d'abord cette partie-là. Qu'est-ce que vous leur avez proposé comme perspective ?
Alors, on donne une première projection parce que c'est vrai que pour nous, c'est nouveau de donner des perspectives. Donc, on s'attelle à cet exercice nouveau. Donc, la première chose, c'est qu'on donne notre objectif de chiffre d'affaires. Donc, en 2026, nous projetons de réaliser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires au travers de croissance externe et de croissance organique, avec pour objectif de réaliser une croissance externe par an et après une croissance organique qu'on a positionnée à 5%, qui est vraiment une croissance très prudente dans nos métiers, en sachant qu'on a toujours surperformé le marché.
Vous avez les moyens financiers d'atteindre ces objectifs ? Comment ça va se passer ?
Alors aujourd'hui, évidemment, on a récemment dévoilé notre plan stratégique. Il faut maintenant qu'on aligne à ça notre stratégie financière. On a toutes les autorisations pour avancer dans ce sens-là, par l'Assemblée générale notamment.
Merci beaucoup, Bénédicte Durand, d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.